L'école est finie. Et après ? Au service, après les études, l'insertion dans le monde du travail reste un problème pour beaucoup de jeunes, même diplômés, même très diplômés. Le stage et maintenant le service civique servent de sas entre ces deux mondes encore éloignés, études et travail. Un sas pour faire tout autre chose, un sas pour s'engager ou peut-être un sas pour attendre un emploi, une forme de salle d'attente. Car si la raison d'être du service civique, qu'on peut d'ailleurs interroger, c'est de donner du temps et de l'engagement aux jeunes, il s'agit pour ces derniers de pouvoir mettre une expérience sur leur CV. Alors ce service civique qui va peut-être se généraliser, a-t-il tenu toutes ses promesses? Je soumettrai mes invités à la question. Bonjour à tous, Rue des Écoles, c'est le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Au programme de cette émission également notre rubrique actualité avec Marie-Caroline Missire, directrice de la rédaction de L'Étudiant, bien évidemment. Bonjour Marie-Caroline.
Bonjour Louise.
Qu'avez-vous dans votre besace aujourd'hui?
Dans mon panier d'été, j'ai encore de l'orientation scolaire, encore du numérique et encore du bac, avec une grève des correcteurs cette fois.
On vous retrouve dans quelques secondes. Et en dernière partie de l'émission, focus sur l'éducation aux images, à l'image avec le bal. Il ne s'agit pas de danser car le bal lancé par Raymond Depardon est un lieu dédié à l'image document, à la photographie et il a lancé un dispositif pédagogique, la Fabrique du Regard. Sa directrice Christine Vidal viendra nous en parler. Le podcast et la réécoute de cette émission et de tous les numéros précédents de cette année scolaire, c'est sur le site de France Culture à la page de Rue des Écoles. Pour vos commentaires et des réflexions, je lis tout. Vous pouvez m'envoyer vos mails, réagir sur Facebook ou sur Twitter avec le hashtag RDE.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Touré.
Et je salue tout de suite mes invités. Hélène Paoletti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'Agence du service civique. On comprend bien ce que ça veut dire. On a beaucoup parlé du service civique cette semaine.
Tout à fait. On en parle beaucoup depuis plusieurs années. C'est vrai que cette semaine, il y a une activité législative particulière.
Oui, alors qu'avez-vous pensé de ces débats, hein? On va rentrer tout de suite un petit peu dans le vif du sujet, disent, voilà, des députés ont voté hein, pour rendre obligatoire ce service civique.
Ça a beaucoup débattu en tout cas, hein. Plus de 800 amendements déposés, des heures de débat. Le ministre avait l'air d'avoir bien mouillé la chemise puisque je crois qu'il y était encore à minuit. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une thématique de l'engagement qui est sur le devant de la scène. Obligatoire, pas obligatoire, on verra. Les députés ont proposé que le gouvernement le rende obligatoire. Mais en tout cas, le débat est clairement posé.
Marie Trélucane, présidente d'Unicité, l'engagement, eh bien, c'est un peu votre engagement à vous dans cette association qui est à la source du service civique. On peut peut-être dire un mot sur cette histoire.
Oui, bonjour. Effectivement, Unicité est née il y a une vingtaine d'années, effectivement, donc 15 ans avant le dispositif service civique en tant que tel, d'un groupe de jeunes en particulier. Convaincus eux-mêmes que permettre aux jeunes de consacrer une année, 6 à 12 mois de leur vie à servir l'intérêt général et du coup à apprendre autrement, on est à Rue des Écoles, donc effectivement à s'éduquer par l'action citoyenne et par l'action collective dans la mixité, c'était une chose importante pour notre pays, pour eux et pour le pays. Donc fort de cette expérience, effectivement Unicité a mobilisé depuis ces 20 années environ 15 000 jeunes sur des expériences de 6 à 12 mois d'engagement, du bac moins 5 au bac plus 5, de toutes origines sociales qui en équipe vont aider les autres pendant 9 mois. Effectivement, ce qui a pu inspirer sans doute le législateur pour voter la loi de mars 2010 qui a créé l'actuel service civique.
Quel résumé, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir fait le lien avec l'éducation. Valérie Becquet, professeure de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise, bonjour.
Bonjour.
Vous avez travaillé sur l'engagement des jeunes et sur le service civique. Je vais vous poser la question sur le rapport avec l'éducation. Il m'a semblé que dans Rue des Écoles, il était intéressant d'en parler parce que le service civique pouvait être un chaînon manquant entre les études et puis l'arrivée dans le travail. Peut-être aussi pour s'éduquer autrement.
Alors, je ne sais pas si le service civique est vraiment un chaînon manquant, parce que je pense que ça, du coup, ça lui donnerait une fonction un peu spécifique et qui n'est pas nécessairement celle qu'il doit remplir, cette idée de chaînon manquant justement. Cependant, c'est une expérience d'engagement dont il résulte nécessairement des apprentissages de différentes natures, techniques, relationnelles, sociaux. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de jeunes qui le font dans cette perspective. C'est-à-dire qu'on a aussi des jeunes qui sont dans des logiques de formation, d'acquisition de nouvelles compétences. Souvent, ces compétences, elles sont en lien avec leur projet professionnel. Et là, vous voyez, c'est eux, à travers cette expérience d'engagement, qui font un lien entre le parcours scolaire et leur insertion professionnelle.
Mais vous allez entendre, Valérie Becquet, que ces compétences, ces soft skills, nous allons en parler dans la page d'actualité de Rue des Écoles. Et c'est tout de suite avec Marie-Caroline Missire. Et Marie-Caroline, on commence cette semaine avec un rapport sur l'orientation. Et en la matière, la situation n'a pas l'air d'évoluer beaucoup.
Il y a les élèves qui s'orientent et ceux qui sont orientés. Ce triste constat vient une nouvelle fois d'être avancé par le rapport de la mission d'information du Sénat. Après un an de travaux, le verdict n'a pas varié d'un iota par rapport au rapport précédent. L'orientation cristallise que le système éducatif est de plus inégalitaire et de plus injuste. Strictement fondé sur les notes dans les matières générales, l'orientation scolaire est une machine à trier les élèves entre filières nobles et filières moins nobles. Une machine onie tout autant que le conseiller d'orientation psychologue, le fameux COP, bouc émissaire des failles du système.
Et que préconise ce rapport ?
Il avance quelques pistes quand même. Instaurer le droit à l'erreur au lycée en permettant des passerelles entre filières. Bon, c'était censé être le cas avec la réforme du lycée de 2010.
Oui, oui, oui.
Voilà. Former les profs à l'orientation et laisser au COP, donc, celle des élèves en grande difficulté. Alors, je ne suis pas sûre que ça puisse régler le problème. Et enfin, une bonne idée quand même, prendre en compte non seulement les notes, mais aussi les compétences, les aptitudes et la personnalité des élèves. Bref, la question du talent et de ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces,
vous l'avez très bien
comme
dit,
disent les anglo-saxons, très en vogue dans la pensée éducative mondiale aujourd'hui. On en est encore bien loin en France.
Et puis autre sujet, les derniers soubresauts des épreuves du bac avec des professeurs en colère.
Et cette année, c'est un cas de chantage à la correction de copies auquel nous assistons dans l'Académie de Créteil notamment. Une centaine de profs retiennent les copies de philo et les notes de leurs élèves pour dénoncer la diminution des horaires consacrés à cette discipline en terminale et la dégradation des conditions d'enseignement. Bref, le ministère qui a reçu les profs contestataires jeudi temporise en expliquant que les notes ont quand même eu le temps d'être saisies.
Tout va bien.
Mais je suis pas sûre. C'est vrai qu'à force de parler du latin et du grec au collège, on en aurait presque oublié les problèmes du lycée. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas mieux pour sensibiliser à une cause que de bloquer les épreuves du bac. Cela se voit, on en parle, les journalistes se régalent. Le seul hic dans tout ça, c'est que ce sont les élèves qui en pâtissent, mais ça...
Et à propos des élèves, ils vont avoir droit à encore un nouveau plan numérique pour l'école.
Absolument. À 2 mois de la rentrée, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, communique sur la mise en place du plan numérique à l'école. Bref, rappel des faits, ce plan, ce sont des millions d'euros injectés dans le système éducatif, 1 milliard même sur 3 ans, dont 1/3 financé par les investissements d'avenir. À la rentrée, donc 300 collèges seront connectés, c'est-à-dire équipés en matériel informatique, bon, financé par les collectivités quand même, et des ressources pédagogiques numériques seront mises à disposition des profs. Et bonus, une rallonge de 500 millions pour la poursuite du plan numérique. Sauf que les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Sur le terrain, pas mal de collectivités n'ont pas encore lancé leur rappel d'offres pour acquérir du matériel. La production de ces nouvelles ressources numériques qui, sur le papier, auraient pu profiter aux nouveaux acteurs du numérique à l'école, aux start-up, a été totalement récupérée par les gros éditeurs traditionnels.
On rappelle le chiffre en millions ?
Alors un appel d'offres quand même de 300 millions d'euros. Et puis enfin, j'ajoute que les questions de l'assurance du matériel, c'est pas rien, de son entretien et de la réelle mise en œuvre de la formation des enseignants au numérique restent problématiques. Pourtant, la réussite de ce plan est vraiment cruciale pour la transformation digitale de l'école. Ça serait vraiment dommage que le plan Hollande connaisse le même destin que le plan informatique pour tous des années 80. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais des milliers d'ordinateurs étaient restés dans les armoires du ministère.
Ah si, si, je me souviens très bien de mon MO5 et de mon TO7, c'était au collège. Enfin, non pas enfin encore, Marie-Caroline, les suites du feuilleton sur l'enseignement privé
hors contrat, que Najat Vallaud-Belkacem dit vouloir mieux encadrer avec les Républicains qui, sur ce sujet, ne sont pas, vous me dites, à une contradiction près.
Et c'est le journaliste Alain Auffray qui les pointe, ces contradictions, dans Libération. Le 27 avril dernier, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a déposé une proposition de loi instituant l'obligation d'autorisation préalable avant l'ouverture d'établissements d'enseignement privé hors contrat. Dans le viseur du député, les établissements musulmans, une quarantaine actuellement, qui sont parfois soupçonnés de dérives radicales. Bon, deux mois plus tard, sept députés du même camp, on est toujours chez les Républicains, proches des milieux traditionnalistes, signent dans le Figaro une tribune pour demander le retrait de cette proposition au nom de la liberté d'enseignement. Cette réforme, écrivent-ils, risque fort de décourager toutes les initiatives de création d'écoles hors contrat, lieu de précieuses innovations pédagogiques. Il serait très injuste que toutes ces écoles, toutes ces initiatives méritoires disparaissent ou soient considérablement ralenties à cause d'une poignée d'écoles soupçonnées, souvent à raison, malheureusement, de représenter un terreau favorable pour l'islamisme radical. Fermez la parenthèse. Une alliance étrange entre une partie de la droite et les défenseurs des écoles hors contrat est la preuve qu'en France, la guerre scolaire peut se rallumer à tout instant.
À tout instant, enfin peut-être pas pendant les vacances. Alors j'avais envie de vous parler des vacances, Marie-Caroline et chers auditeurs, puisque elles commencent mardi pour les élèves du primaire. Les lycées, évidemment, se sont vidés depuis longtemps. La rentrée, c'est jeudi 1er septembre, car en France, on ne peut pas psychologiquement rentrer en août. Et puis, le calendrier de l'année prochaine est très bizarre. Je parle du calendrier des vacances, évidemment, avec une Toussaint qui commence un mercredi, le 19 octobre, et qui se termine un jeudi. Et puis, des vacances de Noël qui se terminent un mardi 3 janvier. Peut-être le temps de décuver, enfin, peut-être pas pour les élèves. Enfin, pour la zone C, Paris, Toulouse, Montpellier, on note que le dernier trimestre durera 13 semaines. 13 semaines de cours sans vacances, c'est contraire à toutes les préconisations des chronobiologistes, toutes les préconisations du ministère. On trouve ça sur le site de l'éducation nationale. Le rythme idéal serait de 7 semaines de travail, 2 semaines de repos.
Et que dire, Louise, de la fameuse reconquête du mois de juin ? Cette formule est en fait une réforme lancée par Xavier Darcos en 2009 qui n'a jamais été vraiment appliquée. Il s'agissait, je vous rappelle, d'éviter que les élèves de seconde ne se retrouvent en vacances dès le 10 juin à cause du bac. On se retrouve donc aujourd'hui face à une bizarrerie typique de l'éducation nationale. Théoriquement, les cours finissent le 5 juillet. En réalité, au collège et au lycée surtout, les vacances ont démarré aussitôt les conseils de classe finis, c'est-à-dire fin mai. Une seule solution donc, raccourcir les vacances.
Oui, là, on toucherait à un vrai tabou. Enfin, dernière info, un sondage exclusif de l'étudiant. Les jeunes auraient la bougeotte, les jeunes étudiants, selon un baromètre réalisé par votre journal, Marie-Caroline, et qui ?
Et la société Homebox.
Une société de quoi ?
Oui, oui, c'est une société de garde-meubles sécurisés. Et les jeunes interrogés dans ce sondage associent de plus en plus mobilité et réussite. Et c'est ce qui nous a semblé intéressant à l'étudiant. Ils estiment qu'ils changeront 4 fois de travail au cours de leur vie. Les jeunes, même déjà impliqués dans la vie professionnelle entre 26 et 35 ans, pensent qu'ils devront changer de travail plus souvent, entre 6 à 10 fois pour 20% d'entre eux quand même. Et une proportion beaucoup plus importante que l'ensemble des jeunes interrogés. Mais un autre fait important, c'est que 85% des répondants estiment que Paris n'est plus le passage obligé pour réussir sa scolarité. Paris n'est ainsi plus considéré comme l'unique centre d'excellence en France. Un vrai tournant dans la manière dont les étudiants se projettent dans l'enseignement supérieur. Le « à nous de Paris » de Rastignac appartient à un autre temps, je crois.
Et j'en profite pour vous souhaiter un bon retour à Paris, Marie-Caroline, à la fin de l'été. Remercier nos amis de Lyon pour le duplex, puisque vous étiez à Lyon ce dimanche. Et puis, je vous souhaite également un très bel été. À bientôt, Marie-Caroline.
Magnifique été à vous aussi. À bientôt.
France Culture.
Rue des Écoles.
Louise Touré.
Je le rappelle, on a beaucoup parlé du service civique cette semaine, car ce 29 juin, alors que les députés débattaient du projet de loi Égalité et Citoyenneté, ils ont adopté un amendement qui rendrait obligatoire le service civique pour les jeunes de 18 à 25 ans. Le gouvernement, on l'a dit, y est défavorable, mais en fait, rien ne sera joué avant la fin du processus parlementaire prévu pour décembre 2016. Dans Rue des Écoles, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quels sont les objectifs de ce dispositif. On en a dit un mot, ses contours et les problématiques qu'il soulève quant à la place de la jeunesse dans notre société. Qu'est-ce qu'on dit quand on demande aux jeunes de s'engager? Et d'ailleurs, pourquoi les jeunes devraient s'engager davantage que le reste de la société? Hélène Paoletti, directrice de l'Agence du service civique, je le redis.
Tout à fait. Pourquoi les jeunes devraient s'engager plus que les autres? Ça, c'est pas nous qui leur demandons de s'engager plus que les autres. Les jeunes souhaitent s'engager. On a fait une grande étude en 2015 parce qu'on avait besoin de se renforcer sur nos fondamentaux. On a interrogé un panel de jeunes et à 50%, ils étaient prêts à faire un service civique. Là, maintenant, ils étaient prêts tout de suite. Et puis, quand on leur expliquait un peu plus précisément au téléphone les contenus, le statut, les fonctions du service civique, ça passait à 60%. Donc, il y a un très fort désir d'engagement des jeunes, parce que je pense que la problématique d'aujourd'hui est la bonne. Pour devenir adulte, il n'y a pas que l'éducation. Ou en tout cas, il n'y a pas que l'éducation telle qu'on la vit. Et puis, entre l'éducation et le professionnel, il y aura une petite place, un petit sas pour autre chose. Non, devenir adulte, c'est plein de choses. C'est l'éducation formelle, non formelle. Et c'est aussi des temps d'engagement, des temps de découverte. Et le service civique est fait pour ça.
Alors, engagement, c'est peut-être très clair dans votre tête. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? S'engager, c'est rendre à la société ce qu'elle nous a donné. C'est une formule américaine qui est utilisée pour les corps, qui est un peu l'équivalent du service civique, enfin à l'américaine, je ne sais pas trop comment dire, où on peut aussi aller faire par exemple des opérations humanitaires à l'étranger. Comment vous définissez cet engagement à la française, du coup, Marie Trélucan?
Vous savez, à Unicité, on a quand même une diversité, et dans le service civique en général, il y a une diversité de jeunes. Il n'y a pas une jeunesse et une forme d'engagement et une motivation.
Alors,
j'allais dire, il y a quasiment autant de motivation, d'engagement et de raison d'être, de présence des jeunes dans ce service civique qu'il y a de profils, quasiment. Valérie Becquet, qui a travaillé sur le sujet, pourra dire un peu ce qui
j'allais
dessine,
lui poser la même question, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est travailler dans une association?
Je vais répondre que le grande force du service civique et ce pourquoi il faut absolument le généraliser, et je crois que c'est ce à quoi on s'attelle tous, et en particulier l'Agence du service civique, c'est que ça donne l'expérience, notamment à des jeunes qui ne s'engageaient pas, je reviendrai sur ce terme, de vivre une expérience d'utilité sociale, de vivre l'expérience d'être utile aux autres pendant un temps dans leur vie. Et pour certains jeunes, je vais vous dire, c'est d'avoir ce sentiment d'être utile à la société, c'est regagner confiance en soi du coup, par là même. Et pour des jeunes qui ont par exemple été en échec scolaire, ce sentiment de l'estime de soi et d'utilité, il est absolument essentiel. On pourra mettre en place tous les dispositifs d'insertion qu'on veut. Si on n'a pas le béaba d'estime de soi-même, on n'y arrivera pas. Donc ce qu'apporte le service civique aussi, c'est cette étape dans la vie où finalement, dans la diversité des jeunes, avec leur parcours, leurs histoires, leurs échecs éventuels, ils vivent tous ce même sentiment d'utilité sociale pendant un temps dans leur vie, d'avoir contribué à la société. Et pour moi, c'est ça l'engagement. Donc aujourd'hui, Hélène Paoletti pourra compléter, mais les jeunes peuvent s'engager dans les associations, dans les collectivités locales, dans des établissements publics. Voilà, en gros, donc dans des organisations d'intérêt général, sur des missions d'intérêt général, qui ne concourent pas au fonctionnement, on va dire, général de l'organisme administratif. Plutôt, c'est plutôt des missions de terrain. À Unicité, pour prendre les exemples que je connais, effectivement, il y a des jeunes qui sont sur un partenariat avec le CNC, je crois que vous en avez interrogé certains, qui sont allés organiser collectivement en petits groupes des ciné-débats dans des collèges et lycées.
On va écouter Marianne.
Grâce au CNC, on recrée cette idée de ciné-club, c'est-à-dire on va dans les lycées, on permet les échanges à travers des cinémas. C'est quelque chose de nouveau pour la nouvelle génération. Donc du coup, c'est une chance qui nous a été donnée, mais qui est formidable. Grâce à la mission qu'on a, il y a un partage qui se crée. Et on ne regarde plus les différences, en fait. Les préjugés tombent, le partage est là, la solidarité est là, la citoyenneté est dans cette mission-là, en fait.
Et après, vous allez reprendre vos études, Marianne ?
Ah oui, donc l'année prochaine, je reprends mes études et grâce au service civique, enfin, j'ai eu un regain de confiance et j'attends l'année prochaine avec impatience.
Voilà, une volontaire du service civique, heureuse oui. Et qui, semble-t-il, a appris beaucoup de choses. J'ai discuté évidemment beaucoup plus longuement avec Marianne, qui était volontaire chez Unicité, au CNC. Les ciné-clubs, c'est une belle idée, effectivement. Valérie Becquet, on va faire un petit retour en arrière aussi sur la manière dont le service civique a émergé comme idée. En fait, c'est une idée qui a toute une histoire.
Alors, le service civique a toute une histoire. Il s'inscrit effectivement dans ce qu'on appelle des politiques de citoyenneté, c'est-à-dire comment l'État entend former des jeunes, mais aussi les obliger, entre guillemets, à contribuer à la cohésion nationale. C'est une vraie conception de la place des jeunes dans la société, puisqu'en fait, on va considérer qu'ils sont des ressources pour la cohésion nationale. Et c'est pour ça que les politiques de citoyenneté, parfois, elles sont un peu déconnectées ou décalées vis-à-vis de ce que les jeunes souhaitent réellement faire. C'est-à-dire que quand on analyse ces politiques, c'est autre chose que d'analyser les souhaits des jeunes. Et régulièrement, quand on travaille sur les dispositifs qui en résultent, il y a des décalages entre les deux. Donc voilà, ça c'est un premier élément qui me semble très très important. Tout n'est pas dans tout, en fait. Le deuxième élément concernant le service civique, c'est qu'il s'inscrit directement dans l'histoire du service national. Les premières formes civiles du service national, les coopérants, etc.
On parle bien du service militaire de notre jeunesse.
Ça date des années 60, c'est-à-dire que avec l'objection de conscience aussi. Et les prémices du service civique, elles sont là, les vraies racines. C'est-à-dire dans cette manière de trouver des engagements longs au service de l'intérêt général. Alors bien évidemment, les associations, il y a une circulation des idées, les associations ont influencé. Mais quand le service national obligatoire a été supprimé, il y avait déjà l'idée des volontariats civils. La question du débat de l'obligation se posait déjà. Donc voilà, ça traîne, c'est une traînée et ça date des années 60. Tout ça a commencé dans les années 60 et de manière très très progressive.
Puisqu'on voyait par exemple pour les étudiants que les VSNE qui constituaient des expériences à l'étranger étaient profitables, c'était là aussi une belle ligne sur le CV. Et pourtant, je continue à tiquer sur cette idée de le rendre obligatoire et c'est pas pour rien que j'en bondis maintenant sur la question puisque ça aussi c'est une idée qu'on hérite du service national, dont d'aucuns ont regretté la disparition. Pourtant, le rendre obligatoire, c'est remettre en question tous les arguments qu'on a mis dans la balance au moment où on a arrêté ce dispositif. Enfin, le service national a pris fin pour redonner leur liberté aux jeunes et leur libre arbitre. Valérie Becquet.
Il me semble que le modèle de l'obligation ne correspond absolument plus au modèle social actuel et encore moins à l'expérience des jeunes. C'est-à-dire, c'est une fois de plus insérer une contrainte dans un parcours, sachant que les parcours des jeunes sont déjà assez contraints. Voilà. Donc, je pense que ça correspond plus à leur expérience ni au processus d'entrée dans l'âge adulte. Cependant, ça a une fonction symbolique. C'est-à-dire que si ce registre de l'obligation y revient en permanence, c'est souvent pour en disant oui, mais s'ils y passent tous, il y aura de la mixité, ils seront tous bien intégrés, etc. Sauf que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de la réalité des processus d'intégration des jeunes. Donc moi, je pense que l'obligation est une fausse bonne idée ou une mauvaise idée, tout simplement.
L'obligation. Vous souhaitiez réagir, Hélène Paoletti?
Oui, qu'est-ce que c'est que cette image des jeunes qui n'auraient rien appris de 0 à 18 ans? Et là, je pense qu'à Rue des Écoles, vous avez des choses à dire et qui, à 18 ans, devraient manger un bol d'épinards républicains en espérant que vraiment, enfin, ils aiment ça. Mais qu'est-ce qu'on fait entre 0 et 18 ans? On va à l'école, on va au creuset républicain, on a plein d'assos qui travaillent autour de nous, on aide les parents dans le soutien à la parentalité pour que les enfants vivent les valeurs de la République. Bref, soit on prend le problème à la racine si on pense qu'il y a un problème, soit on arrête de penser quand les hommes dans tous à 18 ans, on va apporter quelque chose. C'est complètement
contraire. Je rappelle, c'est l'agence du service civique qui parle avec votre voix.
Le ministre l'a bien rappelé. Ce qui est important dans le service civique, c'est l'engagement. C'est donner aux jeunes le goût de l'engagement. Si on veut avoir une société engagée, il faut le leur donner. Elle l'a très bien dit, Marie Trélucane. Les jeunes, ils veulent s'engager. Quand on les interroge, c'est ce qu'ils souhaitent. Simplement, il leur fallait un statut. il leur fallait un statut et une unicité qui a travaillé avant le statut du service civique. C'est combien c'est compliqué. Avec le statut du service civique, il y a une indemnité, il y a une protection sociale, il y a des droits, il y a des devoirs qui vont encore être renforcés. Ça donne un cadre pour que les jeunes puissent s'engager. Si on veut une société solidaire, si on veut une société républicaine, il faut que les jeunes vivent ces valeurs-là et non pas qu'on oppose les vieux qui seraient républicains, qui auraient tout ce qu'il leur faut, qui n'auraient plus rien à apprendre, et les jeunes qui ne le seraient pas. Donc donnons leur chance aux jeunes, écoutons-les. Les jeunes souhaitent s'engager, ils souhaitent être utiles. Acceptons qu'ils viennent être utiles pour la société.
I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. 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 I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Rue des Écoles, nous parlons du service civique, un service pendant lequel les jeunes qui le choisissent, pour l'instant, peut-être sera-t-il rendu obligatoire, on ne sait pas, les jeunes qui le choisissent peuvent se former, acquérir d'autres compétences ou tout simplement s'engager, parce que s'engager, c'est peut-être bon pour les jeunes. En tout cas, c'est ce que mes invités ont dit. Mes invités, Hélène Paoletti, directrice générale de l'Agence du service civique, Marie Trélucan, présidente d'Unicité, association qui a un petit peu lancé l'idée, en tout cas qui l'a promue depuis une vingtaine d'années, Valérie Becquet, sociologue qui a travaillé sur la question. Le service civique, on peut peut-être poser quelques chiffres, on ne les a pas encore donnés. C'est 53 000 jeunes l'année dernière. Ils touchent une indemnité de 573 euros. Je parle sous votre contrainte, sous votre contrôle. On a parlé de contrainte tout à l'heure. Et le dispositif est financé à 80% par l'État. Alors, cette semaine, comme on en parlait à l'Assemblée nationale, d'autres voix se sont exprimées sur le service civique. J'ai rencontré un représentant du collectif Génération Précaire ce mercredi à Paris. Le collectif dénonce le manque de place qui est fait aux jeunes dans le monde du travail et un manque de respect et des abus autour du service civique. Je vous propose d'écouter Patrick, c'est un pseudonyme de Génération Précaire.
Des amplitudes horaires très larges, on nous demande de faire le boulot de notre collègue qui est salarié, on nous demande d'être là le week-end alors que on a quand même fait déjà 35 heures pendant la semaine, on est payé autant qu'un stagiaire, voilà, on fait exactement la même mission que le collègue à côté alors qu'on est quasiment aussi bien formé mais que nous on est en service civique. Donc voilà un peu les types de problèmes qu'on voyait, qu'on voit toujours d'ailleurs, avec le service civique. Le coût pour une structure d'accueil, c'est quand même entre 0 et 100 euros. Donc, c'est assez simple d'accueillir un volontaire en service civique. Mais bon, on est quand même diplômé, on a Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. On est légitime pour avoir un job, avoir un CDD ou un CDI. Et malgré tout, enfin, on se contente du service civique par défaut parce qu'on ne trouve que ça sur le marché du travail. Donc, on a un peu ces deux types une sorte d'indignation d'un côté et puis une sorte de frustration de l'autre.
Alors, je vais vous demander de réagir à ce témoignage, Hélène Paoletti, pour commencer, sur ces abus, ces services civiques qui ressemblent furieusement à des postes. Est-ce que déjà ça existe? Est-ce qu'il y a des abus?
Bah écoutez, j'ai bien écouté Patrick. Moi, ce que je recommande à Patrick, c'est... Bon, Patrick est un pseudonyme, donc là, je ne peux pas l'aider. Mais nous avons un service réclamation à l'agence du service civique, donc sous son vrai nom, qu'il appelle l'agence, qu'il envoie un message et nous traiterons sa réclamation, puisque, effectivement, le contrôle du service civique, c'est un pan extrêmement important de notre politique pour mettre en œuvre le service civique. 100% des projets d'accueil sont vérifiés. Alors, je me réjouis qu'il dise que c'est assez simple d'engager un jeune en service civique pour une association, parce que nous, on dit parfois, c'est compliqué, il faut remplir un gros dossier, il faut répondre à des tas de questions. Oui, c'est le contrôle du service civique. Et ensuite, sur le terrain, 20% des organismes d'accueil sont contrôlés et un service réclamation permet de traiter les difficultés.
Mais il n'y a pas de problème, vous êtes sûr, parce que l'encadrement va être renforcé. Donc
bien sûr,
c'est bien que
sûr. 53 000 gens en service civique, il y a des problèmes. C'est un statut qui est très nouveau. Donc évidemment, il faut réussir à s'accorder pour que ces valeurs de l'engagement, de l'éducation non formelle, de la prise d'initiative par les jeunes, rentrent dans le cadre d'associations ou de services de l'État qui n'ont pas l'habitude. C'est ça le choc des cultures du service civique. Hein, donc toute cette problématique de l'encadrement, c'est vraiment essentiel de réussir à aller de l'avant pour créer 350 000 missions, puisqu'on le dit, un jeune sur deux veut faire un service civique. Donc il faut vraiment qu'on leur offre des missions qui soient complémentaires. C'est pas du travail, c'est pas du stage. Vous disiez, c'est la même problématique que pour le stage. Non, parce que le stage, ça prépare à de l'emploi. Donc il faut pas qu'il y ait d'abus, par contre, ça prépare à de l'emploi. Le service civique, ça doit être autre chose.
Mais comment faire pour que ça ne ressemble pas à un emploi alors que les bénévoles, enfin les volontaires du service civique vont s'insérer dans des structures où d'autres gens travaillent? Valérie Becquet.
Pour moi, c'est la question de départ. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une vraie difficulté inhérente au dispositif. Effectivement, les personnes sont là soit à 20h ou 35h. Enfin, simplement, le glissement... Il n'est pas inévitable, en fait. Et donc, le plus dur pour les structures d'accueil et même pour l'agence, probablement dans ces contrôles, c'est d'essayer qu'il ne se fasse pas. Mais le service civique, même si on a un discours sur c'est une politique d'engagement, c'est un dispositif d'engagement, dans la vraie vie du quotidien de la structure d'accueil, le glissement vers un travail salarial, on va dire, pour faire simple, il est présent, il est constamment présent. Et donc, c'est aux structures, en fait, de faire attention, mais en même temps, ça leur fait peser aussi sur les épaules une lourde responsabilité par rapport à ça, sachant que qu'est-ce qu'une mission d'intérêt général? Sincèrement, je trouve que ce n'est pas évident, en fait, de la définir en tant que telle. Qu'est-ce qu'elle aurait comme caractéristique distinctive? Je trouve que c'est loin d'être évident et c'est pour ça que les glissements existent, tout comme les glissements dans un autre domaine ont existé entre les stages et l'emploi salarié, voilà. Mais et puis les glissements tiennent aussi au fait que et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas tant de réclamations auprès de l'agence du service civique, c'est que les jeunes, ce n'est pas grave que ils aient une position de salarié déguisé. Au contraire, parce que finalement, ils apprennent des choses et peuvent encore plus le faire valoir. C'est-à-dire que la situation...
Enfin, c'est peut-être pas grave non, mais pour c'est eux, pas mais concernant le marché de l'emploi, l'idée d'avoir une main-d'œuvre, et ça a été le cas pour les stages, et ça a été beaucoup dénoncé, et c'est la situation qui est faite aux jeunes, d'avoir une main-d'œuvre à très très bon marché, même si ça ne remplit pas exactement un poste tel qu'il est défini, mais c'est quand même bien pratique pour les entreprises et les associations, voilà, si on parle du service civique.
L'idée, c'est, face à une situation de précarité, on fait avec. C'est problématique, mais s'ils ont des difficultés à trouver un emploi, par exemple, ils vont cumuler les stages et du coup, on leur offre le service civique, donc ils vont se dire « Ah, et pourquoi pas faire un service civique ?» Aussi, c'est la situation de l'emploi aussi qui accentue les risques de dérive autour du service civique. Donc, pour moi, c'est ça qui peut influencer.
On mélange deux choses. Hein. On mélange les jeunes qui offraient des dérives parce qu'ils se serviraient opportunément du service civique parce qu'ils ne trouvent pas de travail.
Et moi, je pense que ce n'est jamais le cas.
Ah non, pas du tout.
Ah, parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes pour qui c'était le cas.
On ne va pas reprocher à un jeune qui se cherche de faire un service civique et de s'engager pour trouver sa voie. Vous le disiez tout à l'heure, cette jeune fille que vous avez interviewée, Maria. Marianne, elle a fait un service civique, elle part pleine de nouveaux projets, pleine de nouvelles ambitions. Mais nous, ce qu'on espère, c'est quand il n'y aura plus de chômage des jeunes, il y aura quand même du service civique. Donc je pense qu'il faut distinguer la difficulté du marché du travail, qui ne doit pas entraîner avec lui le service civique. Ce n'est pas quand tout ira bien pour la jeunesse qu'on commencera à s'occuper de citoyenneté. Et ensuite, la deuxième dérive, entre guillemets, ce serait celle de la précarité du tissu associatif, qui aurait besoin de compétences. Et ça, c'est vrai qu'il faut être extrêmement rigoureux.
Et ça, c'est une réalité. On sait que les subventions aux associations baissent
tout
en France.
Et ça, il faut être particulièrement attentif.
De ce point de vue, le service civique est une aubaine.
Tout à fait. Et on ne va pas non plus attendre que les associations soient en pleine forme pour développer le service civique. C'est pour ça que la crête, elle est étroite. Mais il faut la prendre, cette crête, tous ensemble. Il faut que les volontaires soient hyper organisés.
Je ne sais pas si je suis prête à m'engager tout de suite.
Hyper organisés.
Je suis trop vieille.
Plus ils seront nombreux, et c'est pour ça qu'il faut que le service civique se généralise, plus les volontaires seront nombreux, plus leur statut sera connu, archi-reconnu, et mieux ils pourront défendre leurs droits.
La limite d'âge est de 25 ans, je le précise.
30 ans pour les jeunes en situation de handicap, dites-le bien.
Je les ai quand même dépassés. Bon, Marie Trélukène.
La première chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, si dérive ou limite entre l'emploi slash stage et service civique parfois existe, ça reste aujourd'hui hyper minoritaire, que effectivement dans l'optique d'une généralisation, que certains, notamment génération précaire, se préoccupent justement que ça ne se généralise pas, ces dérives, c'est normal, c'est sain et évidemment on adhère tous et je pense tout le monde autour de la table adhère au fait que l'objectif c'est d'avoir des vraies belles missions d'utilité sociale qui épanouissent des deux côtés. Donc ça c'est mon premier aspect, c'est normal qu'ils s'en préoccupent, il y a des solutions et ça va se construire en marchant parce que c'est effectivement toute une pédagogie, voilà, c'est une place à trouver aux jeunes dans des organisations qui ne fonctionnait pas avec. Donc ça va prendre du temps, ça va prendre de l'accompagnement sur le terrain, au niveau national, au niveau local. Et effectivement, faut le faire en ayant ça en tête. Sur l'aspect de ce qui vient d'être dit par Valérie Becquet, ça me fait rire parce que ça me rappelle les débats sur le mécénat d'entreprise. À l'époque, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais ça a un peu à voir où on disait...
Expliquez-nous.
Eh ben, on disait, mais c'est quand même pas normal. Elles y gagnent en communication, les entreprises. Alors on préfère qu'elles donnent pas d'argent parce qu'elles y gagnent en communication ou on préfère qu'elles donnent et que tout le monde y gagne. Bon, donc dans l'aspect évidemment, les structures y gagnent forcément, sinon elles ne prendraient pas le temps d'accompagner le jeune.
Mais est-ce que parfois on n'embauche pas des gens et eux, ces embauchés virtuels, ces travailleurs virtuels payés avec un salaire pour le coup normal, ils perdent.
Parce d'accord.
que quand un service civique occupe un poste, c'est peut-être un emploi de moins en France.
Ce que disait Valérie Becquet, c'est qu'ils ne perdent pas parce qu'ils gagnent de l'expérience. Cela dit,
pour les jeunes,
personne n'y perd. La structure y gagne quelque chose, le jeune y gagne une expérience. Après, il faut que nous, société, on soit vigilants de ne pas exploiter, entre guillemets, le fait que les jeunes ont besoin d'expérience et à ce titre-là, il faut qu'on soit vigilants à ce que vous dites. Donc j'en viens à mon troisième point, qui est que la loi actuelle, et elle va être encore améliorée avec les quelques amendements autres que celui de l'obligatoire qui ont été apportés dans le projet de loi, prévoit déjà que ce soit des missions qui n'ont pas été occupées par des personnes salariées dans les 6 mois précédents, des missions qui aient des journées de formation citoyenne pour les jeunes qui marquent du coup le caractère éducatif aussi du jeune. Le service civique, c'est pas que des mission, c'est pas que une mission pour une structure, c'est aussi des temps de formation, d'éducation. On pousse beaucoup pour qu'ils soient systématiquement organisés sous la forme de rassemblements de jeunes, ce qui va aussi autoréguler le système, parce que les jeunes qui sont pas bien comme il faut dans leur structure, ils vont alerter. Donc ça fait déjà partie du cadre du service civique, des temps de formation. Les structures sont obligées d'accompagner, donc ont un engagement éducatif vis-à-vis des jeunes, puisqu'elles sont obligées par la loi de les aider à réfléchir à leur projet d'avenir. Je dis pas qu'elles le font toutes, je dis que la loi prévoit qu'elles le fassent. Amène un certain nombre de recommandations que nous, on pousse encore aujourd'hui pour aller encore plus loin dans ce marquage des différences par rapport à l'emploi et au stage. Par exemple, de renforcer le nombre de journées justement de formation citoyenne et de systématiquement les faire collectives, ce qui n'est pas encore toujours le cas. De prévoir que les missions ne soient que des missions de terrain auprès des populations et pas des missions dans les bureaux. Ça va aussi beaucoup aider. Et je pousse beaucoup, mais c'est sans doute l'expérience Unicité ou l'expérience du service civil italien, pour que ce soit plutôt des missions à 2-3 et pas des missions à jeunes tout seuls dans une structure. Même si certaines vont dire « Ah là là, mais moi je suis pas capable », elles verront bien qu'avoir 2 jeunes, c'est beaucoup plus facile à gérer que d'en avoir qu'un tout seul, parce que les 2 ensemble, ils vont trouver 2 solutions, ils vont être créatifs, et c'est beaucoup plus difficile de remplacer un salarié par un groupe de jeunes à qui on confie un projet.
Voilà pour la philosophie du service civique qui est perfectible, hein. On entend, il y a encore des efforts d'encadrement à faire. Un point, on en a parlé très rapidement tout à l'heure sur le mélange social, puisque ça fait aussi partie des objectifs du service civique, permettre à des jeunes de tous horizons, de se rencontrer. C'était aussi ce qu'on disait du service militaire, hein, pour reprendre votre analogie, ou plutôt votre généalogie, Valérie Becquet, permettre aux jeunes de se mélanger socialement. Et là, eh bien, on tombe un peu dans les mêmes écueils. D'après beaucoup de témoignages, il y a quand même un tropisme chez les associations ou les collectivités qui vont engager, enfin, je ne sais pas comment on dit exactement, pour le service civique des jeunes, c'est de prendre les gens le plus diplômé possible. Et là aussi, on revient vers un système qui finalement finit par exclure certains d'entre eux. Comment empêcher cela?
Bah écoutez, le rapport d'activité de l'agence vient
de
sortir.
C'est Hélène Paoletti, voilà. Alors, directrice de l'agence du service civique.
Je m'accroche aux chiffres.
Hein. Prends la parole.
Exactement, la parole des chiffres. Donc, on va laisser Unicité après dire sur sa propre expérience. Mais on a l'impression que ce serait exceptionnel et que le reste du service civique serait que des jeunes qualifiés. Alors moi, je ne sais pas où sont les jeunes qualifiés, parce que le profil du volontaire 2015, chiffre à l'appui, c'est, eh ben, c'est tous les Français. J'ai 17% de jeunes qui n'ont aucune qualification, des décrocheurs. Dans la société, ils sont combien? À peu près 17%. J'ai entre 35 et 40% des jeunes qui ont un diplôme supérieur au bac. C'est ce qu'ils sont dans la société. Donc sur les 53 000 jeunes que j'ai en service civique, j'ai un peu plus de filles. 60%, 40% de gars. Et sinon, nos
associations... La personne qu'on entend acquiescer, c'est Valérie Becquet, sociologue qui a travaillé sur la question.
Et ce que je veux dire, c'est que nos associations, elles sont formidables, parce que c'est tout ça sans être obligatoire. Il n'est pas obligatoire de prendre un jeune bac moins 5 ou un jeune bac plus 5. On laisse faire le marché de l'offre d'accueil. Et ben, on a un marché formidable parce que les jeunes de bac moins 5 à bac plus 5 trouvent une mission de service civique. Et ça, il faut y faire hyper attention. Quand on va généraliser, il faut surtout pas que ce soit au profit des plus qualifiés, mais attention, surtout pas au profit des moins qualifiés non plus. Il faut que tout le monde puisse faire un service civique.
Vous le défendez, hein, votre service civique,
on l'entend. C'est notre service civique à tous.
Oui, Marie-Lucas, le mien
c'est
pas tellement.
C'est heureux qu'une directrice d'agence soit convaincue parce qu'elle part.
Sur cette diversité sociale qui a été promise et qui, alors bon, serait globalement au rendez-vous, mais pas en droit, et j'y reviens, et ce sont des témoignages que j'ai pu recueillir, n'est pas respecté parce que on va vers les plus diplômés, parce que ça rassure en France les diplômes, et on le sait, la sociologie de l'éducation le sait, le dit. Eh bien, il y a une préférence pour le diplôme dans notre pays.
Ça, c'est partout, mais il faut quand même entendre les chiffres qui ont été annoncés.
Encore
ça veut
plus
dire
en
que
France
le
qu'ailleurs.
le ressenti qui est perçu parfois n'est apparemment pas quand même confirmé par les données chiffrées. Donc, il faut quand même l'entendre que je pense que la première étape, c'est de généraliser l'offre d'accueil. C'est-à-dire, comme il n'y a pas assez de place, forcément, cette question se pose. Il va falloir qu'on généralise l'offre de mission.
Pour qu'il y ait moins d'effets de concurrence entre les candidats.
Mais pour que tout le monde trouve un endroit où aller, effectivement, moi je pousse plutôt pour l'idée du collectif et donc de dire qu'il va faciliter d'ailleurs l'inclusion de jeunes moins autonomes, mais on peut être diplômé et pas super autonome parce que certains sont pas forcément très débrouillards en ayant fait des études. Donc la diversité, c'est aussi ça, de personnalité. Bon, donc l'offre, la généralisation de l'offre de mission va aussi amener à pouvoir absorber la diversité des jeunes. Là aujourd'hui, on fait quasiment pas de communication au grand public. Pourquoi ? Parce que faut pouvoir leur proposer des missions derrière. Donc cette question, elle est, cela dit, il faut pas se cacher effectivement derrière notre petit doigt. C'est évident que tant qu'il n'y a pas eu la pédagogie, et ça vient avec le temps, d'expliquer que le service civique, c'est pas un stage, c'est pas un boulot. Donc les amendements qui ont été adoptés, de ce que j'ai compris dans le projet de loi, qui prévoit par exemple qu'on recrute le jeune plutôt sur sa motivation et pas sur diplôme, c'est important pour marquer le coup.
Tout va bien, mais ça pourrait aller mieux.
Oui, mais c'est pour marquer le coup, pour que les gens s'habituent au fait que c'est différent et ça va prendre un peu de temps, parce que spontanément, ils regardent leur utilité immédiate.
Valérie Becquet.
Enfin, moi, j'entends les chiffres que vient de donner l'agence, mais ce qui est clair, c'est que y a tout un travail à faire sur les modes d'information des jeunes, parce que les jeunes qui sont peu diplômés vont connaître le service civique d'une autre manière que les jeunes diplômés. Donc il y a tout un ensemble d'éléments pour renforcer l'accès, par exemple les missions locales, hein, qui jouent un rôle important auprès des jeunes un peu moins diplômés. Il y a aussi les modes de recrutement, l'idée de la motivation, est-ce qu'il faut donner un CV quand on, enfin voilà, il y a des choses non, il ne faut pas donner de CV, c'est sûr. Mais sur les modes de recrutement des jeunes, c'est-à-dire passer un entretien, écrire un dossier, ça, candidater ça demande de la compétence et donc il y a de l'accompagnement. Il y a plein de choses qui font que le dispositif, dans son accès, peut aussi produire sa propre sélectivité, en fait. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur la mixité, il y a la mixité liée à l'accès. Bon, alors, on a les tranches d'âge, chacun, on a tous nos petits bonhommes et les graphiques sont équilibrés. Et puis, il y a la mixité d'expérience. Parce que si au sein d'une organisation, vous mettez que des bacs plus 5 et au sein d'une autre organisation, vous mettez que des bacs moins 5,
c'est pas de
la mixité. À Unicité, ils font de la mixité d'équipe. Or, quand on analyse le fonctionnement des équipes au quotidien, c'est loin d'être évident. Les jeunes, ils ont pas les mêmes compétences et ils s'en rendent compte à quel point ils ont pas les mêmes compétences. Donc voilà, la mixité d'accès, la mixité d'expérience, pour moi, c'est pas la même. Et même si à l'équilibre, il y a effectivement ces différents pourcentages qui ressortent, cette mixité, ça reste clairement un objectif, un challenge permanent en fait. Encore plus avec la généralisation aussi, même s'il y aura plus d'offres, ça restera un challenge tout le temps.
Et donc, un point à travailler, j'imagine, pour l'Agence du service civique. Dernier élément de cette émission, l'heure tourne. Concernant l'éducation, eh bien, on y revient dans Rue des Écoles. Il y aurait beaucoup d'assistants d'éducation qui seraient des services civiques. Les assistants d'éducation, assistants pédagogiques dans les collèges, les pions. Et pourtant, c'était un bon moyen de gagner sa vie pour les étudiants. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit dévoiement du dispositif, Hélène Paoletti?
Ça, c'est le genre de limite très classique contre lesquelles on se bat. On a l'impression que parce qu'une fonction est peu qualifiée, ça peut être un service civique. Et nous, bien sûr, qu'on dit non. Donc, l'Éducation nationale, l'année dernière, a développé avec nous un grand plan d'accueil de jeunes. 5000 jeunes à l'Éducation nationale, 10 000 à la rentrée. Je m'en félicite parce que s'il y a vraiment un endroit où il faut faire vivre la citoyenneté, c'est aux enfants dans les écoles. Donc c'est super qu'il y ait des volontaires en service civique. Et on a travaillé à 9 fiches mission type pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'on peut faire ou pas à un volontaire.
Donc c'est pas comme un surveillant.
Exactement. Et ça a été écrit noir sur blanc. Par exemple, faire des jeux pour que les filles et les garçons jouent ensemble dans les cours de récréation, pour que ce ne soit pas des jeux de balles pour les garçons et des jeux de poupées pour les filles. Ça, c'est un boulot pour du service civique et ça s'appelle une mission.
Merci Hélène Paoletti. Merci à tous mes invités. On passe à la dernière rubrique de l'émission. Nous allons parler d'éducation à l'image avec Christine Vidal, directrice de la Fabrique du Regard.
If you grew up in Johannesburg, you heard nothing good about this building. You heard nothing good about this area.
Everything bad that you can imagine, it was a ponty.
If people heard that you were coming to visit here, let alone stay here, they'd say you're out of your mind.
En promenant sur le site Ercilia, site d'éducation à l'image, j'ai fouillé parmi les textes, les œuvres, les dessins, les photos mises à disposition pour les élèves et leurs enseignants. Et j'ai trouvé cette vidéo sur une tour à Johannesburg. Très impressionnant documentaire. Bonjour Christine Vidal.
Bonjour.
Alors si je parle d'Ercilia, c'est parce que ça vous concerne. C'est un projet d'éducation à l'image. Mais l'éducation à l'image, la fabrique du regard que vous dirigez, s'y intéresse depuis 8 ans et vous venez de lancer cette plateforme numérique. Alors expliquez-nous en quoi consistent ces deux projets, déjà la fabrique du regard et son extension actuelle.
Alors effectivement, depuis 8 ans, nous œuvrons sur le terrain national, principalement en Île-de-France, auprès des enseignants et des élèves du premier degré et du second degré, avec cet objectif, eh bien, par l'image, d'être en capacité à mieux saisir les enjeux de la société, à mieux saisir justement, eh bien, comment se positionner par rapport à des images, qu'elles soient artistiques, politiques, publicitaires, des images de presse, parce qu'on est convaincu au sein de la fabrique du regard, eh bien, que l'on peut développer un regard, une position critique et donc citoyenne vis-à-vis du monde par l'image. D'autre part, nous utilisons également l'appétence des jeunes par rapport aux images, à toutes ces images-là, et notamment cette appétence-là, eh bien, nous l'utilisons pour qu'ils deviennent créatifs, acteurs d'une histoire, qu'ils arrivent à s'inscrire dans une histoire collective, celle du groupe au sein de la classe, mais aussi être actifs au sein de la collectivité. Et cela passe par justement, eh bien, un travail concerné, conscient autour des images. Et pour cela, nous travaillons avec des artistes, nous travaillons également avec les enseignants. Et ce qui nous intéresse, c'est pas de faire des programmes d'éducation à l'image pour les jeunes, c'est de faire avec les jeunes, avec les enseignants.
On va s'intéresser à cette dimension participative, collective. On peut préciser que la Fabrique du Regard est adossée au BAL, qui est un lieu culturel situé dans un quartier populaire de Paris. L'occasion de vous poser une question sur le public que vous accueillez, public des collèges d'Île-de-France. Il y a une forte demande des enseignants. Enfin, collège, pas seulement collège.
Oui, pas seulement collège, puisque c'est école élémentaire, collège, lycée et école de la deuxième chance, ou centres sociaux. Effectivement, le BAL, qui est un lieu d'exposition dédié à l'image, à savoir est-ce que l'image est capable de nous permettre de mieux comprendre de qui, de quoi sommes-nous les citoyens. Et lorsqu'on a créé avec Raymond Depardon il y a 6 ans ce lieu, dans l'ADN du projet, il y avait cette volonté de pouvoir considérer que tout le monde peut être intéressé par la mission du BAL. Et c'est la raison pour laquelle, très tôt, donc 2 ans avant l'ouverture de ce lieu, nous avons mis en place des programmes d'éducation à l'image.
Le programme pédagogique notamment, a précédé l'ouverture
voilà,
du lieu.
Voilà, exactement. Parce que, justement, on voulait aussi agir dans les zones d'éducation prioritaire. Le BAL est situé, justement, voilà, dans le 18e...
à la question du public.
Voilà, arrondissement. Et donc, l'idée, c'était de se dire, justement, qu'on allait œuvrer dans les quartiers où, pour X raisons, les jeunes n'ont pas un accès facilité à la culture, voire ne s'en soucient pas, parce qu'ils sont en tel échec scolaire pour certains d'entre eux, ou dans des difficultés familiales, que pour eux, déjà, c'est perdu d'avance. On œuvre auprès de 2000 jeunes par an, issus à 75% des zones d'éducation prioritaire ou politique de la ville, et l'idée, c'est par l'image, justement, de leur permettre de prendre en considération qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des capacités, et que ces capacités, ils peuvent les mettre en œuvre, justement, pour se dévoiler en tant qu'individu, mais aussi être actif au sein d'un groupe.
Projet donc qui continue de se développer. Christine Vidal, je vous ai rencontrée lors d'une journée d'études à Lille contre la violence chez les jeunes. Alors, en quoi cette éducation à l'image et par l'image aide à lutter contre les violences au sein des classes et chez les jeunes en général?
Alors, on a beaucoup d'enseignants qui viennent nous voir en nous expliquant qu'ils n'arrivent plus à enseigner comme traditionnellement, de par justement la difficulté que connaissent leurs élèves. D'autre part, les ambiances de classe peuvent être assez compliquées dans certains établissements scolaires. D'autre part, également, les jeunes regardent beaucoup aussi pour, en tout cas les lycéens, des images sur Internet et notamment des vidéos complotistes. Et donc, il y a un certain climat, à la fois de méfiance, de violence entre les jeunes. Et l'idée, c'est justement, parce que ils s'intéressent aux images, qu'ils en postent, qu'ils en regardent beaucoup en streaming sur Facebook, etc., c'est justement leur permettre d'avoir une distance critique vis-à-vis de ces images et de pouvoir petit à petit opérer un changement de regard, se confronter à des images auxquelles ils ne sont pas habitués. Je vais vous donner un exemple. Cette année, nous avons travaillé avec le lycée Vionnet de Bondy, avec une enseignante de français et d'histoire géo. L'idée, c'était justement d'essayer de comprendre pourquoi les jeunes regardaient, certes, des sites complotistes, mais surtout d'analyser ces sites complotistes. Et fort de cette mise à distance, les jeunes ont décidé, avec un artiste que nous avons invité, puisque nous invitons 70 artistes par an dans nos programmes, de réaliser une vidéo complotiste que vous pouvez, je vous invite à la regarder
sur notre site.
Et cette vidéo complotiste, c'est la véritable histoire des chats. Donc, c'est une vidéo qui joue sur tous les ressorts, justement, des vidéos complotistes. Elle se compose de 2 parties. La première qui est assez spectaculaire, ce sont les jeunes avec l'artiste qui ont choisi les images, qui ont fait le montage, l'agencement des images. Et la deuxième partie, c'est de déconstruire justement en 10 leçons, on va dire, la réussite des vidéos complotistes. Cette vidéo, elle est aujourd'hui utilisée par les enseignants dans ce lycée comme outil pédagogique.
Égypte ancienne, en 2000 avant Jésus-Christ. Pourquoi cette apparition soudaine? Et pourquoi ont-ils immédiatement été considérés comme des dieux? 2016. Les chats sont partout. Dans nos maisons, dans nos rues, sur nos écrans. Des milliards de personnes regardent des vidéos de chats sur Internet et vous en faites sans doute partie. Et comment expliquer ces comportements étranges?
Je profite de ce sujet éducation à l'image pour vous signaler le dernier numéro de la revue Esprit, titre La puissance des images, dossier dirigé par Carole Desbarra. Que vous ayez écouté Rue des Écoles ce dimanche 3 juillet ou en différé, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à notre podcast pour nous écouter cet été, par exemple, puisque le prochain numéro de Rue des Écoles, ce sera le dimanche 4 septembre à 17h. À la technique aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Mège. Comme tous les dimanches, j'étais avec Laurence Genepin, attachée de production, et Alexandra Malka à la réalisation. Merci, merci du fond du cœur pour la belle année professionnelle et amicale que nous venons de passer. Je vous souhaite une excellente soirée et un bel été, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Bien sûr, un bel été sur notre chaîne, puisque la grille d'été commence demain.